Voilà, nous abordons le daf Lamed Aleph, Amud Aleph. Hanoder Mishovte Shabbat, Asur Beisrael, Vasur Bekutim. Celui qui dit, je m'interdis par un vœu de profiter de ceux qui pratiquent le Shabbat, comme ça on va dire pour l'instant. Alors c'est Asur de profiter de ceux qui pratiquent Shabbat, c'est-à-dire les Bnei Israël d'une part, également les Koutim. Les Koutim sont un peuple dont la conversion est discutée. Machloket Anaïm, dans plein de références, est-ce qu'ils sont assimilés à des Bnei Israël ou non? Eux, ils se revendiquent Bnei Israël. Ils ont fait une conversion, mais sur laquelle il y avait une remise en question avec le temps, c'est des Sougiot ailleurs. Et donc, à chaque fois qu'on mentionne Koutim, il faut savoir si on parle d'après la vie qui sont Bnei Israël ou non. A priori, pour l'instant, on n'a aucun indice, puisque eux pratiquent Shabbat. Alors ils pratiquent Shabbat, automatiquement ils font partie de mon vœu. Alors de qui je peux profiter? Peut-être des goyim? Ok. Mais ochleshum, asur beisrael, vasur bekutim. Ochleshum, ceux qui mangent de l'ail. Ça veut dire qu'ils font un devoir de manger de l'ail. Quel est ce devoir? C'est la takana de Ezra, que de manger de l'ail vendredi soir, parce que l'ail il a une vertu de multiplier le zera. Et comme c'est la mitzvah de Onat Talmidei Chachamim, l'El Shabbat, alors Ezra tiken de manger de l'ail. Qui observe cette pratique? Qui c'est qui observe cette pratique? Forcément Bnei Israël, mais aussi les coutumes. C'est pourquoi tous deux font l'objet d'une éder. Je ne peux pas profiter ni de Bnei Israël, ni de coutumes. Il y a une version ici dans le Bet Yosef que c'est moutard des coutumes. Elle est très contestée. Très fortement contesté par le Tosfot Yom Tov, parce que dans la Gemara, ça ne s'entend pas que les Koutim, c'est moutard. Au contraire, les Koutim, c'est assour. Et ça veut dire que les Koutim observent. Mais c'est bizarre. Comment ils observent une takana qui n'est que des Rabbanan? Eux, d'habitude, se réfèrent qu'à Torah Shebirtav et non Torah Shebalpé. Alors, Tosfot Yom Tov nous dit, c'est pas invraisemblable qu'ils ont trouvé cette mesure intéressante et qu'ils l'ont adoptée. Et donc, c'est pourquoi eux le pratiquent. C'est Achilat Shum Shabbat, c'est pourquoi l'El Shabbat, c'est pourquoi ils font partie du Neder. Mais Ole Yerushalayim, s'il a dit je m'interdis à Na de tout Ole Yerushalayim, Asur Beisrael Mutar Bekutim. Pourtant, c'est une mitzvah de Raita d'être Ole Yerushalayim, c'est ce qu'on appelle Aliyah la Regel trois fois par an, à l'occasion des fêtes. Les Bnei Israël observent cette mitzvah, les Kutim, ils ont la mitzvah pas moins, puisqu'ils sont. Si je dis qu'ils sont Bnei Israël, ils ont la mitzvah. Mais ils ne le font pas. Pourquoi ils ne le font pas, hein? Eh bien, les Rishonim nous disent, ainsi c'est écrit dans le Roche, et aussi le Pirush HaMishnayot, la Rambam, ils ont banni Yerushalayim. Yerushalayim était méprisable à leurs yeux parce qu'ils se sont fixés à Har Gerizim, leur temple était là-bas, et donc ils ne montaient pas, surtout pas, à Yerushalayim. C'est pourquoi ils ne sont pas partis de mon éder. Je peux profiter d'un kouti. Maintenant, la Gemara cherche à définir ce terme « Shovte Shabbat ». On parle ici de trois obligations. L'obligation d'observer Shabbat. La takana de Ezra de manger Shum, l'El et Shabbat. Et l'obligation de monter Yerushalayim pour le Regel. Et la Gemara veut savoir, dans mon expression, qu'est-ce que j'entends? J'entends celui qui pratique cette chose? Ou j'entends celui qui est metsuvé, qui est concerné et enjoint par ce devoir? C'est la question que soulève la Gemara. Maï shovte Shabbat. Dans quel sens on doit l'entendre? Il est mami mekaime Shabbat, si c'est ceux qui pratiquent Shabbat. Maï riabe koutim. Pourquoi précisément koutim? Tu m'as dit, Bnei Israël et koutim sont inclus. Mais afilouf de kochavim nami. Même un goy, s'il observe Shabbat, ça s'appelle quelqu'un qui pratique Shabbat. Alors pourquoi tu restreins? Mais élargi, dis que c'est assour. Tous ceux qui sont mekaime Shabbat. Voilà comment il fallait répondre, fallait exprimer le din dans la Mishnah. Et là, faut dire, mimetsuvim à la Shabbat. Faut entendre shovte Shabbat, ceux qui sont enjoints et ordonnés sur la mitzvah du Shabbat. Et à ce titre, je comprends qu'on ait laissé de côté les ovdei kochavim, ne sont pas metsuvim. Ou alors ça veut dire à ce moment-là que les koutim qui sont inclus dans mon éder, on les considère comme metsuvim. Ça veut dire que notre Tana, forcément, il tient koutim. Gire Emet Nenu sont des vrais convertis, sont des vrais Bnei Israël. Je referme la parenthèse. Et à qui si c'est comme ça, il m'a seifa. Lis la suite. La suite de la Mishnah nous dit, mais Olay Yerushalayim, Asur Beisrael Mutar Bekutim. Pourquoi les Koutim échappent au vœu? Mais ils sont Metsuvim. Même s'ils ont renoncé à cette mitzvah, s'ils sont Gire Emet, s'ils sont concernés par la mitzvah de Aliyah à la Regel, autant que nous, ils ne font pas leur devoir, c'est leur problème. Moi, j'ai dit ceux qui sont Olay Regalim dans le sens de Metsuvim sur cette mitzvah. Pas au sens de ceux qui pratiquent cette mitzvah. C'est ce que tu m'as défini dans la Recha pour Shabbat. C'est ce qu'il faudra retenir également dans la Sefa pour Aliyah à la Regel. Or, les Koutim ne sont pas moins Metsuvim que nous, s'ils sont, voilà, des vrais convertis. Amar Abaye, Metsuve Vose Katane. En fait, l'intention, ce que le Tana nous enseigne, c'est un éder dont la résonance, elle est double. Il est Metsuve et Ose. Il est enjoint par ce devoir de Shabbat, de Achilat Shum, de Ali à la Regel, et il l'observe. Ça, c'est ce que le Noder, il entend, c'est ce que le Tana nous définit, que c'est l'intention du Noder. C'est pourquoi ça donne ce que la Mishnah dit. Comment ça donne ça? La Gemara nous fait le constat. Betar Tebave Kamaïta, dans les deux premières parties de la Mishnah, c'est-à-dire Shabbat et Achilat Shum, Yisrael v'ekutim et tsuvim v'osim. Bene Israël et Koutim, tous deux, sont enjoints et appliquent. Même les Koutim observent le Shabbat, même les Koutim mangent de l'ail vendredi soir. De là, le Tosfot Yom Tov, il dit invraisemblable la version du Bet Yosef, selon laquelle les Koutim échappent au neder de Ochleshum. C'est à voir. Mais en tout cas, la Gemara nous dit ici les deux premières parties de la Mishnah. Effectivement, même les Koutim sont Emetsuvim et Osim. Par contre, Ovde Kochavim, si un goy fait Shabbat, ou il mange de l'ail vendredi soir, Haoudé Avde, Osin Vena Metsuvim. Ce qu'ils font, si bien, quand bien même ils le feraient, ils l'observeraient, c'est à titre bénévole, ils ne sont pas Metsuvim. Donc, ils ne sont pas inclus dans le Neder. Parce que ça ne s'entend pas dans Shofté Shabbat ou dans Ochleshum. Sachant que Shofté Shabbat ou Ochleshum, ça veut dire Metsuvim Veosim, ce n'est pas le cas des Goïm, même s'ils pratiquent Shabbat ou Achilachum. Bon, par contre, Beolei Yerushalayim, Israël Metsuvim Veosim, Kuti Metsuvim Venamosim. S'agissant maintenant de la Seifa, Olei Yerushalayim, tu m'as demandé, mais tout le monde est Metsuvé. Oui, mais quand je dis Olé Yerushalayim, ça comporte deux choses. Il est enjoint par la mitzvah et il s'applique à le faire. Or ça, c'est que Bnei Israël. Les Koutim ne montent pas à Yerushalayim, même s'ils sont Metsuvés. C'est pourquoi ils échappent au Neder et je peux profiter d'eux. Nouvelle Mishnah. Konam Sheni Nehne Libne Noach. Mutar Beisrael Vassur Beumot. Il a fait un Neder global de ne pas avoir de profit d'une personne appartenant à Bnei Noach. Il peut profiter de Bnei Israël. Mais pourtant, les Bnei Israël sont les descendants de Noach. Mais ce n'est pas eux qu'on désigne Bnei Noach. La Shon Bnei Adam, c'est que les Bnei Noach, c'est les nations. C'est que les Umot. Eux font l'objet du Neder et pas un Bnei Israël. Demande la Gemara Israël Minafik Miklal Bnei Noach. Et est-ce que les Bnei Israël échappent et ne sont pas inclus dans Bnei Noach? Pourtant, on est réellement descendant de Noach, pas moins que les autres. On est descendant de Shem, Shem ben Noach. Réponse, Kivan de Ikdash Avraham, Itkaru al Shemé. Dès qu'Avraham, il a été sanctifié, alors toute sa descendance est apparentée à Avraham, c'est une nation à part. On appelle ça Zera Avraham. Et donc, on n'est plus dans le dénominateur commun de Bnei Noach. C'est fini, on est en marge de Bnei Noach. Bien que, généalogiquement, c'est vrai, on descend tout droit de Noach. Nouvelle Mishnah, Shenin est né les Zera Avraham. Cette fois-ci, il a dit, je fais un vœu de ne pas profiter des descendants d'Avraham. Qui s'appelle descendance d'Avraham? C'est que les Bnei Israël. Asur Bnei Israël, Moutar Beumot Haolam. Bien que descendant d'Abraham, il y a aussi, comme on va le voir, Yishmaelim et Esav, descendants de Esav, eh bien, ne font pas partie du Neder. Pourquoi? La Gemara demande, Vaïka Yishmael. Réponse, Kibitra Kikare, les Chazara. Dans la Torah, on a bien défini que ta descendance, toi, Abraham, sera nommée à travers Yitzhak. n'y a que Yitzhak qui représente ta descendance. Zera Abraham, c'est Yitzhak. Ve'aïka Esav, mais il y a encore Esav, les descendants de Esav. Ve'Yitzhak, ve'lokol Yitzhak. C'est pas en Yitzhak, c'est dans Yitzhak. C'est ça le bête. Une partie de Yitzhak. Tu te définis, toi, Abraham, ta descendance se définit par une partie de Yitzhak, c'est-à-dire Yaakov et non Esav. Et bien qu'en matière de Nédarim, on a toujours défendu qu'on va d'après le langage Lachon Bene Adam. Et là, on se réfère à des psukim. Il faut croire que ce qu'on trouve dans les psukim, des fois, ça, c'est ce qui a déterminé notre façon de parler. Le Tana atteste que le langage des Bnei Adam, il est conforme à ce qu'on entend dans les psukim. Et que quand un juif lui dit Zera Abraham, c'est forcément Bnei Israël, uniquement. Et quand il dit Bnei Noir, ça ne peut pas être Israël, parce que Israël, ça s'appelle Zera Abraham. Voilà. Et là, à partir de maintenant, il y a un virage. La prochaine Mishnah, ce n'est plus ce genre de question. Qu'est-ce qui inclut, qu'est-ce qui exclut dans telle ou telle expression ? C'est quelle est la portée du vœu. On a compris l'intention, mais, pardon, alors quelle est maintenant la marche à suivre, comment je dois appliquer ce neder. On parle ici de quelqu'un qui a fait un vœu de ne pas profiter d'un autre. « Sheni ne'enem Israël ». Ça revient toujours sur le mot « konam ». « Konam », c'est un kinouï de neder. La chaune neder, « je m'astreins par un vœu de ne pas profiter, mi Israël ». On aurait pu dire « mechavero ». L'Avdafkin, Ben Israël, même d'un goy, ça revient au même. Comme ça, il dit le Roche, ça n'a pas d'importance si c'est d'un juif ou d'un goy. Mais j'ai formulé le vœu, je ne profiterai pas de un tel. Alors maintenant, est-ce que je peux avoir un échange commercial avec ce un tel? C'est la question. Il nous faut contourner le problème de la hana que je peux avoir à travers cette transaction. Alors nous dit la Mishnah, il y a des solutions. Lokear beyoter ou mocher bepachot. Si c'est moi le vendeur, je vais lui vendre plus cher. Pardon, excusez-moi, si c'est moi l'acheteur, puisque je ne dois pas profiter de lui, je devrais lui acheter à plus que le prix. Comme ça, je ne suis pas gagnant. Et si c'est moi le vendeur, je lui vendrai à moins que le prix. Comme ça, je ne suis pas gagnant. Situation inverse maintenant. Chez Israël, Nenini, c'est toujours Konam. Chez Israël, qu'un juif ne soit pas néné de moi. Donc, s'il désigne quelqu'un, lui, je l'interdis de profiter de moi par aveu. Comment faire pour une transaction entre lui et moi? Lokear bepachot, il pourra acheter chez moi à moins que le prix. Pardon, moi j'achèterai, moi qui ai formulé le vœu, j'achèterai chez lui à moins cher. Moins cher que le prix pour qu'il ne soit pas gagnant. Et si c'est moi qui lui vends, je lui vendrai beyoter plus que le prix pour qu'il ne soit pas gagnant. Ven shomilo. Mais ils ne vont pas écouter. Ça veut dire qui sera d'accord de faire des affaires avec moi si c'est que d'avance il est défavorisé? Faut arranger le prix pour que ce soit toujours en sa défaveur. Personne ne sera partant pour ça. Pourquoi la Mishnah me fait ce constat, Ben Shomilo? C'est un peu inutile, dit le Roche. Et bon, comme ça en plus, ça a été mentionné. Ou plutôt, il dit, il y a une autre version. Comme le Ran aussi, il cite cette version. Im Shomilo, s'ils veulent bien l'écouter. C'est-à-dire, s'il veut bien jouer le jeu. Tu peux faire des affaires avec lui. S'il veut bien jouer le jeu, accepter ce compromis, que tu sois toujours avantagé et lui perdant. Alors, ça fera en sorte que lui n'a pas profité. C'est jouable. Mais sinon, tant pis. Sheni nene lahen venli. Si maintenant il a fait un vœu à double sens, je m'interdis de profiter d'un tel et eux de moi, alors dans ce cas-là, yene laumot. Ah, excusez-moi, là il a dit... Ah, très bien, très bien, très bien. Il se pourrait que, même si le Roche nous a dit sur la Recha de la Mishnah, « Sheni nene mi Yisrael », qu'on aurait pu dire, alors lui, il n'a pas dit, il n'a pas la version « mi Yisrael », il a la version « le Yisrael ». Je crois comprendre que ça veut dire « d'un Israël spécifique ». Alors il a le problème, pourquoi un Israël, même un goy, ça revient en même, il dit « l'avdavka ». Il est possible que d'après notre version, mais Israël, ça s'entend au sens large, d'un juif, n'importe quel qu'il soit. Ok. Bon, pourquoi on a voulu présenter avec Israël plus qu'un goy? Il faut voir, ça n'a pas d'importance. Une fois de plus, Mais si on parle d'Israël au sens large, maintenant vient la Seifa, Shanin et Nelaem, que je ne dois pas profiter de eux, Béné Israël, globalement, tout Béné Israël, et eux de moi. Eh bien, alors, il lui reste qu'à être né et né laoumot. S'il doit faire des affaires, il ne pourra plus faire des affaires avec un juif. Ni vendre, ni acheter, parce qu'il y aura toujours un gagnant. C'est toujours le vendeur ou l'acheteur qui tire profit de la transaction. Or, dans les deux sens, il y a l'astreint du vœu. Ni eux, ni moi ne pouvons profiter. Il me reste qu'à faire des affaires avec Umot Haolam, qui, eux, ne sont pas inclus dans le vœu. Pourquoi on nous a dit la Seifa ? C'est élémentaire. Tu m'as dit que dans un sens, je dois m'en tenir au vœu, dans l'autre sens, je dois m'en tenir. Et quand c'est à double sens, eh ben, tout est assourd. Je l'entends facilement, je n'ai pas besoin de le dire. Dis l'Oran, au nom du Rabbeinu Aaron Alevi, que le chidouche, c'est de dire qu'on ne doit pas assimiler ça à un vœu, que c'est Yefchar Lekayem. Et donc, que ce soit un Eder Shav qui soit sans aucune consistance, qu'un vœu qui est Eder Shav ou Shvuat Shav n'a pas d'effet, n'a pas d'emprise. Non, on ne dit pas ça ici. Pourquoi ? Le Tana est en train de te dire, ben, voilà, tu te tourneras vers d'autres personnes pour faire les achats et ventes qui ne seront pas dus à Israël. C'est faisable. Ce n'est pas quelque chose qui est irréalisable. Ton Eder est contraignant. Ça, c'est le sens de la Sefa d'après ce commentaire. Gemara, on part avec un enseignement indépendant à Shmuel. Shmuel, il dit à l'okéar keli mina uman levakero. Celui qui achète un ustensile, pardon, excusez-moi, il n'achète pas encore. Il prend chez un vendeur. Le uman, c'est un artisan qui vend des kelim. Et bien que c'est son métier de vendre, j'ai pris chez lui un objet, je ne l'ai pas encore acheté, levakero pour le tester. Je vais l'amener chez moi, je vais demander à mon tonton des conseils, qu'est-ce que t'en penses, par exemple. Les vaquaires, c'est discerner. Est-ce qu'il vaut la peine, il vaut pas la peine, il m'intéresse, je vais demander à ma femme, qu'est-ce que t'en penses, on l'achète. C'est ça les vaquaires. Mais je ne l'ai pas encore ni payé, ni même, je ne vais pas l'utiliser. C'est juste pour tester l'objet, est-ce qu'il me convient ou non. Mais je ne vais même pas l'utiliser. Venenas veyado. Et dans sa main, c'est-à-dire quand il le détient, il y a eu un pépin. L'objet, il s'est cassé, il a été... N'importe, il y a eu un cas de force majeure. Il est khayav, il doit dédommager. Je rappelle les klalim, habituellement on a shomer chinam, il est khayav que sur pshia, s'il a une négligence. Shomer sachar, il est khayav même sur gneva vaveda, mais pas sur onsin. Et le Shoel uniquement, Shoel qui emprunte parce que Kolana chez l'eau, tout le bénéfice est à lui. Il ne rembourse rien. On lui rend service quand on lui met à disposition un objet. Et sans contrepartie, il ne paye pas. Il n'est pas socher. Gratuitement. Comme il a tout le bénéfice, le din, c'est quoi ? On met la barre très haut. Il est chayav même en cas de force majeure. Si on l'a braqué, on lui a pris ça de force. Attends, je ne peux pas te rendre ton objet. On m'a braqué. Je vais sauver ma vie. Honnête. Et alors, tu payes quand même. Ouais. Si l'animal que j'ai emprunté, il est mort avec la foudre, je ne pouvais rien faire. Tu payes quand même. T'es emprunteur, Shoel et Khayav de Onsin. C'est la règle. Maintenant, ce monsieur n'est pas Shoel a priori. Il n'utilise pas l'objet comme j'ai dit. Il le prend juste pour le montrer à ses proches. Qu'est-ce que vous pensez? Ça vaut la peine. Il va montrer à un connaisseur. Tu penses que c'est de la qualité? Ça vaut pas? C'est tout? Et voilà qu'il arrive un Ones. Il a été abîmé par un Ones. Eh bien, il doit payer. Alma Kassavar. Ça veut dire que Shmuel y pense. Hanat Lokeachi. C'est le profit. C'est le profit du Lokeach. Qu'est-ce qui est le profit du Lokeach? La transaction elle-même. Pourquoi il l'a pris? En vue de la transaction. Et la transaction, c'est l'intérêt de qui? C'est l'affaire de qui? C'est l'avantage qui fait une affaire dans une transaction. C'est l'acheteur qui fait une affaire. C'est lui qui ressort gagnant. Et donc, il l'a pris pour éventuellement concrétiser l'achat et sortir gagnant. Donc, pourquoi il l'a pris? Il le tient dans ses mains pour son profit. Il ne l'utilise pas comme un objet que j'utilise physiquement. C'est vrai, ça, ce n'est pas convenu. On n'a pas dit « je t'emprunte l'objet ». Le Kelly, je ne l'utilise pas. Mais je veux le tester. en vue de concrétiser l'achat. Or, l'achat m'intéresse à moi plus qu'à toi, vendeur. Ça s'appelle comme si je te l'ai emprunté. Je suis comme assimilé à un shoel. Comme ça, le Roche et le Rhin expliquent. C'est pourquoi Shmuel dit qu'il est chayav de Hansin au même titre qu'un shoel. Ça s'appelle kolana shelo. Qui profite que l'objet dans ma main? C'est pas lui. Il l'a fait pour moi, dans mon intérêt, parce qu'en vue de concrétiser un achat, or l'achat c'est mon intérêt à moi et pas le vendeur. C'est ça qu'on voit clairement. Parce que si un achat c'est l'avantage du vendeur, alors on ne peut pas dire que c'est tout bénéfice pour celui qui est l'acheteur. Et donc pourquoi tu dis « Kolana Shelo », à quel titre tu le rends chayav de Hansin? Il n'a pas un din de Shoel. Ok? Vous êtes commerçant? Eh bien vous allez comprendre que des fois, le vendeur, ce n'est pas lui qui est gagnant. Ça existe, on va voir. Mais en tout cas, c'est ce qu'on voit, que Shmuel, il a cette conception, a priori. S'il nous donne un tel din, ça veut dire que c'est l'acheteur qui repart gagnant. Et donc, quand il détient l'objet en vue de concrétiser l'achat, ça s'appelle comme s'il l'a emprunté pour un profit personnel. Pas de l'utiliser physiquement, c'est vrai, ce n'est pas le moment, puisque ce n'était pas convenu. Mais au moins, ça m'intéresse parce que voilà, peut-être que grâce à ça, je vais pouvoir faire une affaire. Donc je le détiens pour un profit personnel, s'appelle un shoel. C'est comme un shoel. Et donc je suis chayav de Hansin, voilà ce qu'a l'air de dire Shmuel. Alma kasavar natlokehi, tnan. Et là on revient à notre Mishnah pour vérifier est-ce que ça passe ou non, cette conception de Shmuel. Au regard de notre Mishnah, on a l'impression que ça passe pas. Notre Mishnah elle a dit, il a fait un éder sheni l'ennemi Israël. Premier cas. Je ne profiterai pas d'un Israël. Il peut encore faire des échanges commerciaux avec un juif? Oui, d'une certaine manière, dit la Mishnah. Mocher bepachot, il peut vendre que à moins que le prix. Pour ne pas être gagnant, pour contourner le problème de la hana'a de cet échange commercial, il me faut vendre à perte. Moins cher. Aval chavé, mais chavé. Mais si je lui vends au juste prix, l'eau. Pourquoi? Parce que vendre au juste prix, il y a un qui est gagnant et pas l'autre. Qui est le gagnant? Le vendeur. Donc le vendeur ne doit pas vendre au juste prix, il doit minorer le prix pour ne pas être gagnant. S'il a vendu au juste prix, ça s'appelle que le vendeur est gagnant et non l'acheteur. Question sur Shmuel.
Mais il faut qu'il perde de l'argent ou qu'il gagne moins? Si le prix moyen, par exemple,
je ne sais pas exactement la vérité.
Si le prix moyen, c'est 100.
J'ai compris. Est-ce qu'il doit vendre à perte par rapport à ce que lui a payé ou bien il doit vendre moins cher que le prix du marché? Je crois que c'est vendre un peu moins cher. Je crois, je suis pas sûr, j'ai pas vérifié. Mais je crois que c'est un peu moins cher dans le sens que s'il a vendu moins cher alors que chez quelqu'un d'autre il le vendait au juste prix, ça s'appelle qu'il n'est pas sorti gagnant de cette affaire. Il n'a pas eu l'ana de ce juif, je crois, mais il faut vérifier, je crois. En tout cas, dans la Mishnah, on voit que le Tana, il a une conception différente. C'est le vendeur qui semble être gagnant dans une affaire, dans un échange commercial. C'est pourquoi on lui dit, vends-le moins cher pour ne pas... Parce que tu le vendrais au juste prix, c'est toi le gagnant. Vei, ana, cloque, achi, et si on dit comme Shmuel que l'ana, elle revient à l'acheteur. Ma filou chave bechave. Vends le même au juste prix. C'est de toute façon pas toi le gagnant, c'est l'acheteur qui est gagnant. Qui ressent qu'il a fait une affaire? C'est l'acheteur. Et lui, il n'est pas soumis au vœu. C'est toi qui es soumis au vœu dans la récha. Réponse. Matnitin bisvina de ramé à la paix. Notre Mishnah, ça parle d'un achat qui lui pend au nez, entre guillemets. Comme ça, Rashi semble interpréter, qui veut dire qu'il a du mal à vendre. C'est un objet qui n'est pas du tout recherché, que les gens ne cherchent pas trop à acheter et qu'on a du mal à vendre. Et donc, qui est gagnant, c'est forcément le vendeur qui s'est débarrassé de cet objet. Et donc, ce n'est pas l'acheteur. C'est pourquoi, pour que le vendeur échappe au Isurana du vœu, il lui faut vendre moins que le prix. Parce que s'il le vend juste prix, bien que d'habitude, c'est l'acheteur qui est reconnu profiteur. Ici, c'est le vendeur qui est reconnu profiteur. Parce qu'il s'est débarrassé de quelque chose qu'on a du mal à vendre. Et Shmuel ne lui parlait pas de ce genre d'objet. Quand Shmuel lui dit, j'ai pris l'objet du vendeur pour aller le tester, ça parlait d'un objet qui se vend bien et facilement. Et donc, c'est l'intérêt de l'acheteur plus que l'intérêt du vendeur. Dit la Gemara Imken, si c'est ainsi, et Maresha, si tu établis ainsi la Mishnah, qu'on parle d'un objet qui est difficile à vendre, alors lis la Resha, dans la même partie de la Mishnah, il y avait écrit que Loker Beyoter, il doit acheter plus cher que le prix. Ça ne marche pas. Pourquoi je dois le payer plus cher que le prix? Mais si c'est un objet qu'on n'aime pas acheter, à la rigueur, je lui rends service que je lui l'achète. C'est pas moi qui est gagnant, moi l'acheteur. J'aurais du mal à le revendre. Et ça lui prend en nez à lui. Et donc, je ne suis pas né, même si je le paye au juste prix. Je n'ai pas besoin de payer plus que le prix pour ne pas être profiteur. Véod et de plus, ça cause problème dans la Seifa. Et ma Seifa, dans le deuxième cas de la Mishnah, c'est à l'envers. Chez Israël, Néhéninli, j'ai fait un konam, un neder, que d'autres ne profitent pas de moi. Alors, le kerbe pachot, mocher beyoter. Là, le din, c'est qu'il doit acheter à moins cher que le prix, et il vend à plus cher que le prix, de sorte à ce que l'autre qui est soumis au vœu, ne profite pas de moi. Fei bisvina deramé à la paix. Et si, comme tu l'as établi, on parle dans la Mishnah d'un objet, d'une vente, de quelque chose qui nous pend au nez, entre guillemets, alors à filou chavé béchavé, il peut même le vendre à chavé béchavé au juste prix. Parce que s'il me le vend, à moi, il m'a collé un objet qu'on a du mal à vendre. Si je lui vends, moi, à lui, Vibisvina de ramé à la paix, alors, quand lui me vend, pourquoi tu lui dois me vendre? Non, quand moi je lui vends, je dois lui vendre plus cher pour pas qu'il profite. Même sans ça, je peux lui vendre chavé, mais chavé au juste prix. De toutes les façons, il n'est pas gagnant. Je lui ai collé un objet que personne ne demande, ne recherche. Et là, il faut dire, c'est Fabis Vina Kharifa. La Gemara dit, bon, d'accord, pour la Recha, on maintient que c'était un Svina, un objet qui nous pend au nez, ramé à la paix. Dans la Sefa, c'est le contraire. C'est un objet qui est kharif, qui se vend vite fait, qui est prisé. Yachi, loker bepachot, afilou chavé bechavé. Dans ce cas-là, ça cause problème. Pourquoi il doit acheter moins cher? Il peut l'acheter même au juste prix. Ça s'appelle que moi qui l'achète, je profite. Et lui qui me le vend, qui ne doit pas profiter de moi, il ne profite pas, puisqu'il m'a mis à disposition un objet qui est prisé. Et là, ma petite indisvina mitzvah. Il n'y a pas d'issue pour dire que tantôt c'est le vendeur, tantôt c'est l'acheteur. Ça veut dire que la transaction représente un bien, un profit pour l'un et pour l'autre. C'est forcément ça dans la Mishnah. On ne peut pas dire que c'est ou l'un ou l'autre. C'est un bien pour l'un et pour l'autre. Comment c'est possible? Bezvina mitzah. Moyen. Moyen, ça veut dire que c'est ni kharif ni ramé à la paix. C'est un bien qui se vend moyennement et que quand on l'a vendu, ben, si on a choisi de faire la transaction, tous les deux, on a fait une affaire. Moi parce que je vends et toi parce que tu as acheté. Chacun trouve son compte. Si c'est un objet que on a du mal à revendre, donc tu n'as pas fait une bonne affaire, c'est le vendeur qui est content d'avoir vendu. C'est lui qui a profité. Si c'est un objet qui est très prisé, que tu revends au quart de tour, donc c'est l'acheteur qui a fait une affaire. Et si c'est entre les deux, alors ben, on a décidé de faire une transaction parce que ça intéresse l'un comme l'autre. Chacun trouve son compte dans sa transaction. On ne dira pas, moi j'ai fait une mauvaise affaire ou toi t'as fait. Non, c'est pour les deux qu'il y a un bénéfice, un avantage. Alors il y a une ana dans un sens ou dans l'autre, vis-à-vis de l'un, vis-à-vis de l'autre. C'est pourquoi à chaque fois la solution, quand le neder c'est que je ne dois pas profiter de toi ou toi de moi, à chaque fois la solution sera d'ajuster le prix et de ne pas le vendre au prix juste. Parce que le prix juste égale profit à l'un et à l'autre. Et pour échapper au issur du neder, il faudra nécessairement rajuster le prix de sorte à ce que la personne soumise au vœu, au issur ana'a, ne soit pas avantagée. Vede Shmuel, tandis que le sujet de Shmuel, effectivement, ça parle de Svina Kharifa, un objet qui se vend facilement, qui court, qui est très, très rapidement, tu l'as liquidé parce que tout le monde recherche et achète ça avec intérêt. Et donc Shmuel, je redis, Shmuel, il a dit, l'acheteur potentiel qui a pris l'objet en main pour aller demander à un expert est-ce que ça vaut les vaqueros, pas pour l'utiliser, ben il est comme un chouel parce que le fait d'envisager l'achat qui veut concrétiser, il n'est pas encore décidé. Mais le fait de rechercher à concrétiser un achat, or un achat c'est l'avantage de l'acheteur, oui, s'agissant d'un Zvina Harifa. C'est pourquoi ça s'appelle que tu es Kolana Shelo, au même titre qu'un Shoel, Techayav de Onsin. Il y a une précision supplémentaire que le Ran nous rappelle d'une Gemara ailleurs. Dans la Gemara Baba Batra, ça précise, il faut que le prix soit déjà établi. Parce que si le prix n'est pas encore convenu entre l'acheteur et le vendeur, que cet objet vaut tant et tant. Donc l'acheteur n'est pas... Il ne sent pas que la balle est dans son camp. Il ne sent pas qu'il est capable de décider tout de suite, oui, je l'achète. Il est encore dans un stade très préliminaire dans la transaction qu'il est juste en train d'envisager peut-être. Mais alors là, on ne peut pas dire que ça s'appelle qu'il a l'objet en main avec le profit de peut-être confirmer la transaction, etc. Il ne connaît même pas le prix. Il n'est pas sommerdat sur ça. Et donc, ce n'est pas ressenti comme un profit, un avantage. Ce n'est pas kolana chez l'eau. Et donc, il ne serait pas khayav de onsin. Ensuite, alors le Ran nous dit des précisions qui sont parsemées dans le chasse, qui se complètent, c'est courant. C'est pas obligé que dans chaque sugya on ait dit tous les éléments qui sont établis dans l'une et dans l'autre. On les regroupe et on les retient les deux. On sait d'une part qu'il faut que ce soit Zvina Harifa, comme on a dit ici, et on sait d'autre part qu'il faut que le prix soit établi d'avance, comme c'est établi dans Masechet Baba Batra. Tanya Kevate de Shmuel, on présente une braïta qui conforte Shmuel. Celui qui achète des objets, des kelim, d'un commerçant pour les envoyer à la maison du beau-père. Cadeau pour la kala. Et il lui a dit, s'ils vont les accepter, ces cadeaux, je t'en donnerai le prix. Et s'ils ne veulent pas, ça veut dire si ces cadeaux n'ont pas été de leur goût, ils vont me les renvoyer. Alors, tu sais quoi? Je vais te les rendre, mais je te paierai quand même. Les filles tovatana'a, selon ce que j'aurais tiré comme profit. Ça veut dire, c'est quand même, grâce à ça, j'ai fait bonne impression dans ma belle famille, que je suis généreux, je vais faire des cadeaux de cette valeur, etc. Alors, ça, je ne vais pas. Égoïstement, ouais, non, ce ne sera pas sans contrepartie. Je vais te payer, comme si je t'ai loué un service. Je ne t'ai pas acheté la marchandise, mais je t'ai loué un service. Voilà, ce bijou, je voulais l'offrir, ça fait bonne impression. Je te payerai un quelque chose. On s'entendra sur le montant de ce que ça représente, cette tovatana. Donc voilà ce qu'on a convenu avec le vendeur. Et après, voilà que Nensu, il y a eu un ones. Ça a été, il y a un braqueur qui lui a enlevé ça. Et maintenant, la question, c'est la question comme Shmuel, est-ce qu'il est chayav ou pas, Deonsin? Likra chayav, vachazara patour. Voilà ce que tranche la braïta. Sur le chemin de l'allée, il est chayav. Parce que c'est exactement comme Shmuel. À ce stade, qu'est-ce qu'il recherche? À concrétiser un achat, mais un achat intéresse l'acheteur, s'il s'agit d'un Zvina Harifa, comme on l'a défini en haut. Donc le Tana, la Braïta nous dit la même chose que Shmuel, que des fois, certains achats sont l'intérêt de l'acheteur, au point que l'acheteur peut être assimilé à un Shoel, parce qu'il détient l'objet avec le Kolana chez l'eau. Tout bénéfice, c'est à lui. Qu'est-ce que ça profite au vendeur, non? C'est pour un achat qui est l'intérêt de l'acheteur. Par contre, Bechazara, sur le chemin du retour, il n'est pas tour. Pourquoi? Parce qu'il a renoncé à concrétiser l'achat. Donc, il ne tient pas en vue d'un achat qui est son profit à lui. Alors là, il n'est pas tout. Mipnechou, que non, c'est Sahar. Il est simplement comme un chômeur Sahar. C'est quoi un Nosé Sahar? Normalement, Nosé Sahar, ça veut dire chômeur Sahar, celui qui perçoit un Sahar pour garder un objet. Mais là, il n'était pas chômeur. Au départ, il était Shoel. Et après, le temps de ramener l'objet au vendeur, disons, il n'est plus Shoel parce que c'est plus avec le kolana chez l'eau. Mais est-ce que pour autant les chômeurs sahar, est-ce que le vendeur le paye pour garder l'objet précieusement? Il ne paye rien. Non, mais ça s'appelle un chômeur sahar parce que c'est le din d'un shoel après le délai de lâcher là. Si j'ai emprunté pour 30 jours quelque chose, mais je l'ai encore chez moi au-delà des 30 jours, je n'ai pas pu le rendre. Quel statut j'ai à ce moment-là? J'ai un din de chômeur sahar. Parce que comme je l'ai pris pour en profiter, j'ai eu comme un sahar. C'est, au final, j'ai comme un sahar de cette shmira. Donc j'ai comme un din shomer sahar. C'est pourquoi il n'est pas chayav de onsi. Une histoire. Aou safsira de shakal chamra les avune velo isvan. Safsira, c'est un revendeur. Disons un revendeur. Des chakal chamra, il a pris un âne. Il a pas encore payé. Il a pas encore acheté. Chez un éleveur, il a pris un âne. Les avouné en vue de le vendre éventuellement. Si j'arrive à le vendre, eh ben je te le paye. Et si je trouve pas d'acheteur, ben je te le ramène. Velo isvan, ça n'a pas été vendu. Beadé de Hadar, alors qu'il revenait, donc il est sur le chemin du retour, Itnis chamra, le chamor a eu un ones, quatre forces majeures, la foudre, l'âne est mort. Chayve Rav Nachman et Shalume. Rav Nachman Obedin, il a dit, monsieur, t'es chayav de payer. Chayav Beonsin. Ça ressemble à ce qu'a dit Shmuel. Sauf que, on vient de voir dans la Braïta, mais c'est qu'à l'aller, au retour, puisqu'il a plus en perspective l'achat, donc c'est plus dans son intérêt qu'il le tient, qu'il le détient. C'est la question de Rava. Itiv et Rava le Rav Nachman. Rava, il objecte son maître Rav Nachman avec cette Braïta. Mais Nsouba, Licha, Chayav, Bachazara, Patour. Et là, on est sur le retour. Amarle, Rav Nachman se défend et lui dit, Chazara ne safsira olachahi. Le retour du safsar, c'est comme l'aller. Pourquoi? Deilu mashkar les avouné. S'il trouve à qui vendre, à filou à bava débété, même sur le seuil de la maison de l'éleveur, Milo Masvilnes qui va pas le vendre. Et c'est quoi? Et tu crois qu'il a décidé formellement, je le vends pas? Il a pas trouvé au marché de bestiaux, il a pas trouvé preneur. Mais là, si en chemin il trouve quelqu'un à qui le vendre, bien sûr qu'il le vendra. Donc il a toujours à l'idée de le tenir pour éventuellement le vendre. Quand est-ce qu'il renoncera? Une fois qu'il l'a remis chez le fournisseur. Là, d'accord. C'est pourquoi le retour ici, c'est comme l'aller, et il indigne de Shoel Chayav de Onsi. Mishnah. Konam Shani Nene La Rélim Moutar be'arle Israël ve'asur be'moule umot haolam. Par un vœu, je m'interdis de profiter de qui? Arélim. Arélim, normalement, sont ceux qui sont incirconcis. Eh bien, la Mishnah nous dit pas forcément. Il est moutar be'arle Israël. Il peut profiter d'un juif, quel qu'il soit, même s'il est arel. Mais d'un autre côté, il est assur be'moule umot haolam. Les goyim sont arélim, pas uniquement s'ils sont incirconcis. Même s'ils sont moulim, on les nomme arélim. Arel ne veut pas dire nécessairement et littéralement celui qui est circoncis ou non. C'est pas directement. Stam arel, dans le langage parlé, ça fait référence à goy, par opposition à juif. Donc j'ai dit, je profite pas des arélim, ça veut dire des goyim. Il a sourd des umot haolam, même s'ils sont circoncis. Et à l'opposé, pour les Israël, ils peuvent profiter, même s'ils sont incirconcis. Ils ne s'appellent pas Arélim communément. Alachiquement, oui. Mais communément, ce n'est pas comme ça. La signification Arel, ce n'est pas juif, c'est goy, par définition. Et maintenant, à l'envers, Shani Nene la Moulim. Je fais un éder de ne pas profiter des gens Moulim. Ben, sur Barley Israël, ou Moutar Ben Moulé, ou Mota Olam. Il ne peut pas profiter même d'un harel juif. Ah, mais il n'est pas circoncis. Oui, mais moulim, ça désigne le Ham Israël. Donc, il est assur de tout Ham Israël. Mais d'un autre côté, il est moutard par rapport à Umot HaOlam. Parce que Umot HaOlam ne s'appelle pas moulim, quand bien même ils sont circoncis. Donc, il est moutard de profiter d'un goy même circoncis. Voilà. La Mila ou Aorla, harel ou Mahoul, c'est pas... Dans le langage parlé, c'est pas spécifiquement l'état physique de la personne qu'on désigne, circoncis ou incirconcis. C'est un titre honorifique ou méprisant. Maoul, c'est un titre honorifique qui s'adresse que à Ben Israël. Après, il est circoncis ou pas, ça reste un Ben Israël. Il mérite ce titre, il s'appelle Maoul. Arel, c'est un titre méprisant qui s'adresse à Umot Haolam. Ben Israël ne s'appelle pas Harel, même s'il est incirconcis. Communément, dans le langage parlé, c'est ça l'idée. Halachiquement, il est Harel. Oui, dans les Mishnayot, on le désigne Harel. C'est un statut halachique. Mais en termes d'étiquette, en termes de dénominateur, un juif ne s'appelle pas Harel. Harel, c'est un terme méprisant qui est une étiquette qui est adressée à Umot Haolam. Et donc, c'est comme ça qu'on détermine la portée du vœu. Que dans un cas, Harelim, ben, ça comprendra que des Goyim et pas des Bnei Israël. Et dans un cas, Moulim, ça comprendra que des Bnei Israël et pas des Goyim. She'en ha'orla que rouya el aleshem Goyim. Le concept de Harel ne s'applique que au Goyim, she'nehemar, qui colle à Goyim Harelim. Premier pasouk. Voilà un passage qui dit, voilà, les goyim sont tous harelim. Vechol bet Israël, harlelev. Les bnei Israël, quand ils sont fauteurs, on les appelle harlelev. Ce n'est pas la même chose, ce n'est pas harel tout court. C'est le cœur bouché, d'accord. Insensibilité du cœur. Ils ne sont pas sensibles aux paroles du prophète, etc. D'accord. Mais harel, ça ne se dit pas des bnei Israël, que des goyim. Véomer, deuxième citation. C'est David Ameler qui dit dans Sefer Shmuel à propos de Goliath, Ve'aya Pelishti et Harel Azé. Mais d'où il sait que c'est un Harel? Comment il pouvait savoir? Il le nomme malgré tout Harel, parce que d'emblée un Goy s'appelle Harel. Ve'omer, il est dit, troisième référence, Pentismachna benot Pelishtim, Pentalozna benot Harelim. De peur qu'elles se réjouissent, les filles des Pelishtim, de peur que Talozna, oui, se réjouissent. Une fois de plus, Benot Harelim, fille de Pelishtim qui sont Benot Harelim. Pourquoi les Pelishtim sont appelés Harelim? Parce que d'emblée, les Goyim, voilà, s'appellent ici Harel, même si il peut être qu'il y a des gens convertis chez eux. Pourquoi il nous faut trois psukim pour établir que Harelim, ça désigne Goyim? Pourquoi? Laura nous dit que du premier pasuk, c'est pas forcément une preuve, c'est pourquoi il nous faut le deuxième. Le deuxième aussi, et c'est pourquoi il faut le troisième. C'est un peu la démarche que la Gemara souvent, elle établit pourquoi un Tana, il a cité trois références, Véomer. C'est parce que d'une première citation, t'as pas une preuve formelle. Et la deuxième non plus, alors il faut la troisième. Alors qu'est-ce qu'ici on peut dire sur la première? Le Ran nous dit, Koalagoïm Arelim peut être au sens de Harlelev. Comme juste après, on parle de Beth Israël qui sont Harlelev. Ici aussi, Harelim au sens de cœur bouché, cœur insensible. Mais pas Harel tout court. Donc, je n'ai pas de preuve du premier pasouk, c'est pourquoi il me faut deuxième. Le deuxième, oui, David, il a pu désigner Goliath, Harel, sans savoir s'il est peut-être qu'il est né Maoul, ça existe quelqu'un qui naît sans Orla. Non, comment il a pu le dire formellement? Parce que ça ne change pas, qu'il soit Maoul ou non, ça s'appelle un Harel. Goy égale Harel. Après, je vais dire, oui, mais peut-être que ce pasouk non plus, ce n'est pas une preuve. Peut-être que il a compté sur le rov. En général, un homme, il ne va pas naître Mahoul. Donc, c'est pourquoi il l'a désigné Harel, parce que c'est présumé Harel. Eux ne pratiquent pas la Mila. Et d'emblée, en général, un enfant est né avec la Orla. Donc, David, il a pu compter sur ça pour le désigner Harel. Mais ça ne veut pas dire que même s'il était circoncis, il aurait désigné Harel. Or, c'est ça qu'on cherche, nous, à prouver. C'est pourquoi avait Omer, troisième référence, et là j'ai la preuve imparable. Que quoi? Que des Bnot Pelishtim s'appellent Bnot Harelim, mais Pelishtim c'est tout un peuple. Or, dans un peuple, il y a forcément des gens qui naissent sans la Orla. C'est un phénomène qui existe. Donc, dans une population, il y a des individus qui sont nés sans Orla, et quand même, on les appelle tous Harelim. Pourquoi? Forcément parce que même sans la Orla, le goy s'appelle Harel. Harel, au sens méprisable du terme, ça désigne les goyim. Voilà, on a la preuve. Et même s'ils sont circoncis, ils ont y a ce dénominateur. Et c'est ça qu'on entend quand on fait un éder des Harelim. Ça vise les goyim et pas les juifs. Maintenant, au passage, la Mishnah enchaîne avec toutes sortes de Mahamarim, des différents Tanaïm. Rabbi Elazar ben Azaria Omer. Mais où ça y a Orla? La Orla, elle est méprisable. Qu'on doit être très attentif à la mitzvah de Mila. Et la Orla, c'est un grand mépris de la portée. Shenit Ganouba Rechaim. Parce que les Rechaim de la terre sont méprisés par ce terme, Shenemar, qui colle à Goyim Arelim. C'est comme ça qu'on les méprise par ce terme. Ce terme est donc en soi quelque chose de méprisable. Donc, nous, on doit comprendre la valeur de cette mitzvah, c'est qu'on se débarrasse de quelque chose de grandement méprisable. Rabbi Ishmael Omer, que Gdola Mila, la circoncision est immense. Shenichretu Aleha Shlosh Esrei Britot. Parce que 13 fois la Torah, elle parle d'alliance entre Hachem et Bnei Israël. Et donc, si cette mitzvah est qualifiée déjà de brit, c'est le signe d'une alliance entre Hachem et Avraham et ses descendants. Et à 13 fois c'est mentionné, ça montre l'importance. Rabbi Yossi Omer, Gdola Mila Shelochet HaShabbat. La Mila est immense parce que voilà, on a trouvé que ça repousse Shabbat. Si le 8e jour il tombe un Shabbat, on fera la Mila, malgré que ça induit des Melachot. Donc c'est Doré Shabbat HaChamura, le Shabbat qui est très Chamour en lui-même, qui est Karet Eskila.